C'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous préférez m'écouter en podcast, on va parler d'un podcast précisément. Méta de choc se demande pourquoi on pense ce que l'on pense. Dans ses nombreux épisodes, ce podcast explore nombre de croyances, théories complotistes, médecines alternatives, nouvelles spiritualités qui se développent sur Internet, dérives du coaching ou mouvances sectaires comme les témoins de Jéhovah. Méta de choc est sous forme d'entretien, souvent fleuve, avec des experts ou des personnes qui témoignent. Elles ont parfois été des victimes, parfois elles sont ou ont été membres influents de ces croyances.
Avant d'aller à ce séminaire, j'étais outrageusement confiant dans ma capacité à connaître suffisamment les procédés manipulatoires, les tentatives d'embrigadement pour me laisser prendre.
Bonjour Elisabeth Feiti.
Bonjour Steven.
Méta de choc, c'est vous. Et une de vos ambitions de départ, c'était de vulgariser une notion. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, de vulgariser une notion, la métacognition. Expliquez-moi ce que c'est.
Alors oui, effectivement, la métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Et c'est quelque chose que, effectivement, j'avais envie de diffuser au plus grand nombre parce que il me semble que c'est important de se demander pourquoi on pense ce qu'on pense. On a l'impression que c'est évident, on se pose même pas la question de savoir ce qu'on pense ou pourquoi on le pense. Et au bout du compte, quand on commence à être attentif, à observer la manière dont on pense et pourquoi on pense ce qu'on pense, bah quelquefois on tombe des nues et on réalise d'où ça vient, ou alors on réalise tout simplement ce à quoi on pense.
Vous vous positionnez dans la veine des podcasts dits de connaissance. Vous n'avez pas peur de dire à vos auditeurs d'ailleurs d'être attentifs en écoutant vos podcasts. Vous leur conseillez même parfois de se munir d'un carnet et d'un crayon pour prendre note.
Oui, oui. Alors ça m'arrive assez peu souvent parce que j'évite de donner de faire des injonctions et de donner des indications trop précises à mes auditeurs parce que mon but c'est plutôt que chacun fasse ce qu'il veut de ce contenu. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un objectif éducatif très clairement avec mon podcast. Alors de la vulgarisation comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'idée est de transmettre des informations, des connaissances qu'on a aujourd'hui en notre possession, donc notamment les connaissances scientifiques, mais c'est beaucoup, beaucoup au service de l'auto-éducation des auditeurs à la réflexion sur leurs propres pensées. Donc ça m'est arrivé effectivement dans la dernière émission sur le coaching, où il y avait énormément d'informations qui peuvent être utiles et qui sont des connaissances qu'on n'a pas. On a beaucoup parlé des techniques de manipulation et souvent on n'a pas connaissance de ces techniques. Elles ont des noms, elles ont aussi bien sûr des explications et je pense que c'est utile d'en avoir connaissance.
Votre promesse, votre ambition, c'est de respecter le réel, c'est de montrer de l'intérieur les processus mentaux, les mécanismes, très souvent pour mieux les déconstruire.
Oui, en fait, déjà, le simple fait d'avoir conscience de nos mécanismes mentaux, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une attention accrue au quotidien, en fait, sur ce qui peut se passer dans notre tête. Et puis, c'est aussi pour déjouer, pour éviter certaines erreurs et donc certaines souffrances. Et c'est vrai que vous le disiez, moi, je m'intéresse beaucoup aux croyances et aux croyants et à la raison pour laquelle ils peuvent croire et trouver un intérêt à une croyance, puis peut-être en sortir. Donc j'interviewe pas mal de déconvertis. Et le fait de comprendre les mécanismes de la croyance et les mécanismes de nos processus de pensée nous permet aussi de questionner notre manière de penser. Si on n'a pas connaissance de ces mécanismes, de ces techniques quelquefois de manipulation ou d'endoctrinement, eh bien on a moins de possibilités de questionner ces croyances qui font partie de notre quotidien, qui font partie de nos modes de pensée normaux, on va dire, et qu'on ne questionne plus du coup.
Aujourd'hui, lorsqu'on a une vie spirituelle en lien avec la loi de l'attraction, les énergies ou l'amour inconditionnel, on a le sentiment d'une expérience singulière et authentique, indépendante de tout dogme, d'une recherche pure de connexion entre soi et l'univers. Cette spiritualité appartient pourtant à un courant de pensée né à la fin du 19e siècle, l'ésotérisme New Age. Je vais tenter ici de retracer la généalogie complexe de ce qui s'avère être une véritable idéologie.
Méta de choc, méta de choc.
Vous-même, votre parcours a été déterminant dans votre démarche pour créer ce podcast Méta de choc. Vous avez suivi pendant 15 ans les dogmes de l'idéologie New Age. Vous avez longuement raconté ça dans un entretien à Ouzbek Erika, que j'invite les auditeurs à lire. Vous-même, donc, vous êtes une déconvertie et ce podcast, ça fait partie de votre démarche et c'est une façon de continuer votre chemin hors de cette mouvance.
Alors non, je dirais pas ça parce que je considère aujourd'hui que j'en suis vraiment sortie et que c'est pas à visée thérapeutique qu'aujourd'hui je parle de métacognition. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie de ces croyances en ayant moi-même pris conscience que ça en était, parce que je ne savais pas que j'étais dans une croyance, et souvent ce que vous avez nommé le New Age, tout à fait justement, pour les auditeurs, on peut expliquer, c'est en réalité la spiritualité contemporaine telle qu'on la connaît, ce qu'on appelle l'ésotérisme aussi, et dont on voit énormément de livres en librairie, donc toutes les choses de développement personnel, toutes les choses qui sont liées à la loi de l'attraction, à la pensée positive, l'univers est amour, et puis d'autres croyances comme les enfants indigos, les reptiliens, les illuminati, etc. Tout ça, ça fait partie assez largement de ce qu'on peut appeler effectivement le New Age. Et j'en suis sortie en comprenant que c'était une croyance, parce que pour moi, parce que tout simplement c'était véhiculé comme ça dans le milieu, je pensais que c'était prouvé. Je pensais que, je ne sais pas, moi par exemple, la loi de l'attraction était prouvée par la physique quantique ou par les neurosciences, parce que c'est présenté comme tel. En réalité, ce n'est pas le cas, et c'est bien une croyance, et déjà de savoir que c'est une croyance, ensuite de comprendre les mécanismes mentaux, les effets cognitifs que ça avait sur moi, et ensuite pouvoir faire un choix, voilà, autonome, de savoir si je voulais poursuivre cette croyance, mais en connaissance de cause. Bon, en l'occurrence, j'ai abandonné cette croyance, mais moi, ce qui m'a intéressé du coup, c'était de partager ce goût nouveau pour la métacognition et la pensée critique appliquée à soi, le doute méthodique, et donc c'est ce que je fais avec MetaChoc.
L'idée, c'est aussi peut-être d'essayer de piquer la curiosité de certaines personnes qui seraient dans ces mouvances et dans ces croyances habituellement pour les aider peut-être à en sortir.
Mon but n'est pas de les aider à en sortir. Les gens sont libres d'avoir leurs propres croyances et d'y adhérer s'ils le souhaitent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de piquer la curiosité, parce que la curiosité est fondamentale pour la métacognition. C'est-à-dire qu'il s'agit avant toute chose d'être curieux, de se connaître et de savoir comment on pense et pourquoi on pense ce qu'on pense. Et ensuite, en connaissance de cause, encore une fois, de décider, ben voilà, j'ai envie de poursuivre cette croyance en sachant ce qu'elle est, en connaissant réellement ses dogmes, en sachant que c'est une croyance. Parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi que l'expérience personnelle, souvent, prime, hein, quand on est dans la croyance, on a souvent de très bonnes raisons d'y croire, puisqu'on a vécu des expériences personnelles, et ça nous semble être une preuve. Alors, c'est aussi quelque chose que j'essaye de relativiser ou de mettre en perspective dans mes émissions, c'est que l'expérience personnelle, même si, oui, j'ai vécu, et moi-même par exemple, j'ai senti les énergies dans mes mains, j'ai eu la sensation de pouvoir guérir des gens par les énergies, etc., par des soins énergétiques, eh bien, ce n'est pas une preuve. En réalité, il y a des moyens beaucoup plus, on va dire, rigoureux de tester une pratique et de savoir si elle fonctionne, et notamment par la méthodologie scientifique qui consiste à prendre d'abord un échantillon très large de cas, et ensuite de travailler avec les statistiques pour voir s'il y a eu un effet ou pas significatif et non pas dû au hasard, par exemple.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI. Je suis avec Elisabeth Feiti du podcast Méta de choc. Dans votre podcast, Elisabeth, vous interviewez des experts, parfois des experts en neurosciences, en psychologie. Est-ce aussi pour contrer cette passion française des sciences qui n'en sont pas, comme l'ésotérisme, éduquer à la pensée critique, c'est aussi ça, c'est-à-dire de faire entendre des sachants plutôt que des gens qui ne le sont pas réellement.
Alors, pour bien comprendre la manière dont l'esprit humain fonctionne, il y a deux choses importantes, et c'est ce que j'essaie d'avoir dans mes émissions. Il y a d'un côté les connaissances, effectivement, l'état des connaissances scientifiques. Donc effectivement, je fais appel à des sociologues, à des philosophes, à des psychologues, à des neuroscientifiques, etc., etc. Parce qu'il est important et intéressant, et je pense que tout le monde en est curieux en réalité, de savoir ce que l'on sait a priori aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça permet de poser quelques limites. Et ensuite, le deuxième aspect que je développe aussi, c'est donc les témoignages. Et là, ça permet de renvoyer l'auditeur à la propre expertise qu'il peut avoir sur ses modes de pensée personnels. Donc au-delà des connaissances générales qu'on peut avoir sur l'humain, quelle est son expérience à lui ou à elle? Quelle est sa manière de penser? Comment elle perçoit ses croyances? Et quelles sont les conséquences de ses croyances dans sa propre vie?
On va justement écouter Bertrand, qui est un ancien témoin de Jéhovah.
Depuis ma toute petite enfance, j'ai été élevé avec cette idée qu'il y a deux camps. Le camp du bien, qui est celui des témoins de Jéhovah, le camp du mal, qui est celui du monde, décrit comme étant des gens vautrés dans un bourbier de débauche, toujours en citant un verset biblique. Tandis que les témoins de Jéhovah, eux, sont le peuple pur. Il y a un tel vertige existentiel à l'idée qu'on pourrait quitter le mouvement, qu'on censure les idées. Et plus le doute est là, et plus vous vous auto-censurez, c'est extrêmement violent. La tension interne que ça peut créer chez vous, parce que le doute, il est là en permanence.
Elisabeth Feiti, on a entendu donc Bertrand qui a grandi au sein des témoins de Jéhovah, parce que ses parents étaient témoins de Jéhovah, qui a même eu des responsabilités en France au sein de ce mouvement, et qui nous raconte sa vie, l'idéologie, les dogmes, le comportement qu'il devait avoir au quotidien, les choses à respecter, etc., les codes de ce système-là. Ce sont 5 épisodes d'une heure qui s'écoutent assez facilement, même si bon, évidemment il y a quelques longueurs. Pourquoi décider de donner 5 fois une heure à ce sujet-là?
Je crois que les chemins de notre pensée sont assez complexes. Et quand on veut comprendre comment on pense, et en particulier dans une pensée sectaire, dans une pensée d'endoctrinement dès l'enfance, et quand on veut comprendre comment on peut se défaire d'un tel mode de pensée extrêmement prégnant, eh bien, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de comprendre qui est la personne qu'on a en face de soi, donc connaître ce Bertrand, connaître cette personne. Et c'est vrai que le podcast permet cette intimité aussi, d'avoir la sensation d'entrer dans l'intimité de la personne, dans son esprit. Et puis, il faut comprendre son histoire. Il est resté 30 ans dans les témoins de Jéhovah, 35 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quels ont été les moments clés de son endoctrinement, de ses questionnements? Pourquoi il n'a pas quitter les témoins de Jéhovah à des moments où il avait des doutes, à des moments où c'était de la souffrance pour lui? Et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, alors que la plupart des gens ne le font pas, il est sorti d'une secte?
J'aimerais maintenant qu'on parle du modèle économique de Méta de Choc. Vous refusez catégoriquement la publicité. C'est à la fois un défi, mais aussi une conviction.
Oui, alors c'est effectivement une conviction tout à fait personnelle. Moi, je déteste la pub, j'ai horreur de ça, j'ai des ad bloqueurs dès que je peux. Mais il y a un autre aspect, bien entendu, c'est que quand on réfléchit à la manière de penser, on se rend compte assez rapidement que la publicité, c'est quelque chose qui nous conditionne, qui nous endoctrine, qui nous fait agir de certaines manières et de manière très efficace. Parce que quand on voit les budgets débloqués par les agences publicitaires, par les marques, on voit que s'ils dépensent autant, c'est bien parce qu'ils ont énormément de bénéfices à payer aussi cher. La deuxième chose, c'est aussi que concrètement, la publicité nous empêche de réfléchir, c'est-à-dire qu'au moment où on est dans la publicité, non seulement on perd son temps, on offre son temps, et ça a été formulé de manière tout à fait laconique maintes fois, à des marques et à de la consommation, on passe à l'acte. Et puis, effectivement, c'est un sacré engagement. Ça occasionne quelques frustrations parce que, vu l'audience que j'ai actuellement, je pourrais gagner énormément d'argent avec la publicité, à titre personnel, mais aussi, bien entendu, en termes de moyens.
Vous avez fait un petit calcul, d'ailleurs, sur le site l'ADN, où vous dites que la publicité de votre podcast pourrait vous rapporter de 12 à 18 000 euros par mois, en prenant le coût pour 1000 actuel des audiences de podcast. Mais vous refusez à cela.
Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus aujourd'hui parce que quand j'ai fait ce calcul, j'étais à 120 ou 140 000 écoutes par mois, et là je suis à 210 000. Donc en réalité, aujourd'hui, je pourrais toucher entre 20 et 30 000 euros, un truc comme ça. Et aujourd'hui, donc, je fonctionne sur le don, ce qui évidemment n'a aucune commune mesure en termes d'entrée d'argent, puisque ce sont les auditeurs qui apprécient ces contenus, qui veulent que Méta de Choc continue, et ça fait 3 ans que ça existe et je suis pugnace. Mais aujourd'hui, je récolte, alors c'est toujours croissant, mais je récolte à l'heure actuelle 2400, 2500 euros par mois.
Sur des plateformes comme Tipeee, Utip, Patreon, LiberaPay,
oui,
PayPal, etc.
Tout à fait. Patreon, ce sont des plateformes qui permettent à chacun de donner ce qu'il veut, comme il veut, c'est-à-dire ça peut être de manière mensuelle ou ponctuelle, et suivant ses modalités propres. Donc vous avez effectivement, en fonction de la plateforme, des avantages, voilà.
Vous faites aussi appel, eh bien, à votre communauté énorme. On parlait de vos auditeurs. Vous êtes à plus de 2 millions d'écoutes au total maintenant de votre podcast. Et vous le disiez dernièrement, le mois dernier, plus de 200 000 écoutes dans le mois, ce qui est énorme. Et bien, il y a dans tout cela une communauté dont certains sont plus fidèles que d'autres et qui même vous ont proposé leurs services et vous bénéficiez d'eux bénévolement.
Absolument, oui. Oui, c'est très étonnant. Moi, j'ai jamais demandé vraiment d'aide. J'ai juste présenté de manière très transparente depuis le début. Donc déjà, les revenus, depuis le début, ils sont très transparents et chacun sait combien de dons je reçois, mais également les moyens et le travail que ça demande. Mais en parlant de mon travail, en fait, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai vu votre site internet, je pense qu'il peut être amélioré. Si ça vous intéresse, je peux vous aider sur le design, sur la programmation, sur le SEO, etc., pour le référencement sur internet. » Alors, moi, à terme, l'idée n'est pas de fonctionner sur le bénévolat. C'est pas du tout mon but, puisque moi, depuis le départ, c'est clairement une entreprise, hein. Mon but à terme, et c'est pour ça que le prochain palier financier que je souhaite atteindre, c'est 10 000 euros. Je souhaite payer les gens qui, bien sûr, m'entourent et travailleront de manière professionnelle sur un certain nombre de dossiers qui sont indispensables pour la vie d'un podcast. Donc, bien entendu, que, encore une fois, MetaChoc dépend des dons plus que jamais.
Merci Elisabeth Faïti du podcast Méta de Choc, disponible sur toutes les plateformes. Plus d'infos sur metadechoc.fr. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Comme toujours, on termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est le blogueur camerounais Ecclésiaste de Djuy qui, en écho à la journée internationale du sida, c'était mercredi, a rédigé une lettre ouverte d'un préservatif à la population camerounaise.
Bonjour les gens-ci. Je me présente, moi c'est Super Alex. Je suis en latex. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur votre pays-ci. Alors je viens en renfort. Par exemple, on m'a fait savoir que vos filles tombent enceintes à chaque saison de pluie. C'est vrai ça? On m'a aussi fait comprendre que vos adolescents sont devenus amis intimes avec les maladies sexuellement transmissibles. Et n'en parlons pas du sida, qui ne serait qu'un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Les gars, moi je n'ai rien contre vous, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si je peux donner un petit coup de main, je suis seulement vexé parce que j'entends certaines légendes que mes détracteurs propagent et qui intoxiquent la jeunesse. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Moi, je ne suis pas compliqué, je suis en latex. Tu m'enfiles et puis c'est tout. Je suis aussi disponible en version féminine. Dès que je suis là, toi le gars, tu n'as plus à t'inquiéter si la fille est en période ou pas. Et toi la go, tu n'as plus à te tourmenter sur l'état de santé de ton partenaire. Et je rappelle en passant que le sida n'est pas une maladie honteuse ou une maladie issue d'une malédiction. Le sida est simplement une infection virale parmi plusieurs autres. Vrai, hein? Les Camerounais ont une sexualité devenue très incontrôlée qui n'aide pas à lutter convenablement contre le VIH-sida. Combien de Camerounais peuvent être sexuellement fidèles envers un ou une seule partenaire? Aucun. Combien de Camerounais utilisent systématiquement le préservatif avec des inconnus? Très peu. Combien de Camerounais ont fait le test du VIH? Et combien ont déjà fait l'amour après avoir ingurgité des casiers et des casiers de bouteilles de bière? Hein? S'il vous plaît les gens-ci, utilisez-moi. Je sais que si je vous demande l'abstinence, vous allez sauf que m'envoyer au champ. Alors s'il vous plaît, pensez à moi, Alex de Super Latex. Même si je ne suis pas encore biodégradable. Et n'écoutez surtout pas ce que mes nombreux détracteurs vous racontent.
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur camerounais Ecclésiaste de Djuy. Pour mieux connaître la société camerounaise et sa jeunesse, allez lire le blog d'Ecclésiaste, achouka.mondoblog.org. Mondoblog audio qui était préparé comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. conscience. Pour nous contacter, un mail, l'adresse c'est atelier@rfi.fr. Une mention sur les réseaux sociaux pourra aussi fonctionner. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.